j'ai entendu beaucoup de personnes prier pour ça ce matin, qui veulent écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Père Céleste, tu nous invites à écouter ta parole.
Alléluia.
Mettez-nous de bonne garde à la manière dont nous écoutons. Ce matin, nous n'avons que disposé le cœur obéissant pour obéir à ta parole. Apprends-nous à rester attachés à cette parole. Parce que c'est avec cette parole que le monde sera jugé. Tu as dit que tu restes sur ta parole afin de l'exécuter. Seigneur, rends-nous attentifs. Bénis soit ton nom, Père. Dans le glorieux nom de Jésus, notre Sauveur.
Amen.
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 Alors ce matin, le thème tourne autour du temple. Le temple de Dieu est le temple de Salomon. Et puis, ça c'est l'Ancien, mais nous irons aussi dans le Nouveau Testament. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Jésus dans le temple. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Matthieu 21, 12. Le troisième point qui est très important et que la parole de Dieu nous donne, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Alléluia. Je vais vous donner des versets au fur et à mesure que nous allons avancer. Le temple de Dieu est le temple de Salomon. Mais je me suis posé une question. Mais comment se fait-il qu'un si beau bâtiment architecture de l'époque, qui était magnifique, c'est un peu plus que Notre-Dame de Paris. Vous avez vu Notre-Dame de Paris qui a brûlé, qui sont en train de restaurer. Le temple, c'était plus que ça. Notre-Dame de Paris avait du plomb. Mais ce temple-là était couvert d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé que le temple n'y est plus? Alors nous pouvons tenir plusieurs raisonnements. Nous pouvons dire que c'est parce que Jésus est venu avec une nouvelle alliance. On n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin de temple. Oui. Mais je crois dans la sagesse de Dieu, ce temple devait être là. Mais si ce temple n'est plus là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ce matin, c'est ce que je vous invite à voir. Et je veux vous poser tout de suite une question par rapport à cela, pardon. Quel est l'état de ton temple, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit? Il y a un chant qui parle de ça. Est-ce que vous voulez le chanter? Vous voulez chanter ce chant?
Oui.
Levez-vous, il n'y a pas beaucoup de mains. Mais j'invite les choristes à entamer ce chant. Ne sortez pas, tu es le temps. Amen.
Alléluia.
Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temps.
Yeah. Amen.
Gloire à Dieu. C'est très important de prendre conscience que nous sommes, que tu es, et que l'Esprit de Dieu vit en toi. Alors, du temps de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis penché un peu là-dessus pour voir. Parce qu'il nous a dit que c'était un endroit où la gloire de Dieu était manifeste. Alors, pourquoi si la gloire de Dieu se manifeste là? Et pourquoi Dieu a permis que ce bâtiment, architecture de l'époque, c'était une des 5, 6, 7 merveilles du monde, a été détruite? Et c'est ce que nous allons méditer ce matin. Et c'est moi, je vous ai posé cette question. Quel est l'état de ton temple? Et ça, on verra ça avec Jésus. Quand les hommes établissent leur propre justice, un évangile, ils leur ressemblent, et se détournent du Dieu vivant, quand l'idolâtrie, l'incrédulité, la désobéissance et le péché prend la place de Dieu, quand la parole de Dieu est falsifiée dans le cœur de l'homme, le temple de Dieu, les idoles et l'idolâtrie. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont détournés de ce Dieu puissant qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, qui les avait amenés dans un pays où coule le miel, et Dieu a permis qu'ils puissent construire ce temple. Il me semble bien que ça a pris 20 ans. 20 ans pour construire ce bâtiment. Je disais, le temple de Salomon était un lieu où la gloire de Dieu était visible. En tout cela, dans 2 Chroniques 7.1, 2 Chroniques, le chapitre 7 et le verset 1er, il nous a dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, les sacrificateurs, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Dieu était d'accord, parce que dans l'expression « la maison de Dieu », ici c'est un lieu qui est consacré, on peut dire que c'est un lieu consacré au Seigneur pour faire les choses spirituelles. Mais nous devons veiller. Un jour, il y a un pasteur qui avait donné un témoignage dans une église où il s'était détourné de Dieu. Après, l'église était devenue un poulailler. Ah oui. Ils se sont détournés de Dieu. Et Dieu a permis que ce bâtiment soit rasé. À un tel point qu'il n'en reste qu'un pan de mur. Vous connaissez l'histoire, le mur des lamentations. N'allez pas prier devant ça. Hein. N'allez pas déposer une requête, parce qu'il y a des gens qui font ça. Ça va être une prière de lamentation que tu vas déposer sur ta tête. Et tu peux aller visiter ce pays, c'est un très beau pays. C'est le pays de Dieu. Mais n'allez pas vous prosterner devant ce mur. C'est ce qui s'est passé à cause de leur désobéissance. Deux Chroniques, le chapitre 7 et le verset 22, il nous est dit, et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui a été sorti du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux. Dieu est un Dieu jaloux. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Avant qu'on arrive aussi, c'est un péché, mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et se sont prosternés devant eux. et ils les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Et au jour d'aujourd'hui, le peuple qui avait reçu les oracles de Dieu, le peuple qui avait vu les miracles et les prodiges, le peuple qui avait reçu les oracles de Dieu pour être la lumière des nations, n'y est plus, parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Bien sûr, Dieu tient compte de ses promesses, il fera les choses en leur temps, ça c'est sûr. Mais Dieu a suscité l'Église dans sa grâce.
Alléluia.
Et quand nous voyons ce que nous avons par rapport à eux, au niveau spirituel, ils sont loin. Ils sont bénis à cause d'Abraham. Même nos parents sont bénis à cause d'Abraham. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et quand Dieu fait une promesse, Dieu tient ses promesses. Pourquoi Dieu est un Dieu jaloux? J'ai dit que la jalousie est un péché. Mais quand il s'agit de quelque chose qui ne nous appartient pas, comme la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration, ça s'appartient à Dieu. Et Dieu ne partage pas ça. Nous pouvons ici sentir un petit frisson de quelque chose, de la présence de Dieu. Mais nous ne pouvons pas contenir cela. La présence de Dieu, c'est toute la personne de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu me verras par derrière. Alors je disais que Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie, c'est un péché. Dans la mesure où nous voulons prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. L'adoration, on va chanter Dieu le nom, et tu dois apporter l'adoration au Seigneur. L'acclamation, la reconnaissance. Dans Ésaïe 42, 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 48, 9, 11, vous allez lire tout le verset. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu, bien sûr, nous savons quand Jésus reviendra, nous serons avec lui, nous aurons cette gloire. Pour toujours. Et ce sera avec Jésus. Et nous pouvons dire aussi que Dieu peut partager une certaine gloire avec l'Église, une infime partie, parce que vous et moi, nous ne pouvons pas supporter tout cela. Alors voilà ce qui s'est passé dans leur vie, et voilà le résultat de la désobéissance, de l'incrédulité et de l'idolâtrie. Voilà où ça les a amenés. Alors la parole de Dieu nous dit quand il prie, et puis Moïse, il y a un voile. Ils sont voilés. Nous, le voile est tombé, le voile est déchiré. Et nous pouvons rentrer dans le lieu saint, très saint, pour adorer le Seigneur. Jésus dans le temple. On trouve cela dans Matthieu 21, le verset 12, on va le lire. Matthieu 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les échangeurs et les sièges des vendeurs de bijoux. Quel spectacle! Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors tu es le temple, mais est-ce que dans ce temple, il y a une maison de prière? Quand l'église prie, où es-tu? C'est vrai, nous prions tous chez nous. Mais quand l'église est réunie, où es-tu? Ils l'ont dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de pouleurs. Le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temps et ils étaient guéris.
Alléluia.
Mais les hommes religieux qui étaient là, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple. Ce matin, nous avons des enfants venus de nous. Laissez-les crier. Laissez-les louer le Seigneur. C'est nous qui avons fait une distinction entre adultes et enfants. Mais à la base, tous étaient dans le même lieu pour adorer le Seigneur. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alors Jésus rentre dans le temple de Dieu, le temple de Salomon, enfin ce qui restait parce que c'était détruit et rebâti. Et Jésus, cela dépend des auteurs dans les évangiles, il y a plusieurs récits d'une manière différente, mais le contenu c'est le même. Jésus va faire un fouet et Jésus va entrer. Jésus va renverser les choses. Et quand nous venons à Jésus, quand nous ouvrons notre cœur, et je crois que ce matin, il y a des choses dans notre cœur que nous devons abandonner. Des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Des choses qui nous empêchent d'avancer. Des choses qui nous bloquent. Des choses qui empêchent la manifestation palpable et visible de la puissance de Dieu. Parce qu'il est dit quand Jésus est entré là, dans le temple, il nous dit, pardon, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et ils les guérissaient. Voilà ce que les principaux sacrificateurs et les scribes devaient faire. Et ils n'ont pas fait cela. Nous devons veiller sur notre vie. Nous vivons une génération où chacun a un évangile qui lui ressemble, qui l'arrange, dans lequel il se plaît. Mais si vous discutez avec les gens, ils vont vite faire vos contraires. Ils vont vous dire, moi j'ai mon évangile. Et la parole de Dieu ne dit pas cela. Et je crois que ce matin, Jésus veut entrer dans votre cœur. C'est vrai, vous avez déjà donné votre vie à Jésus. Mais une visitation de Jésus par la présence du Saint-Esprit en nous. Pour enlever ce qui ne lui plaît pas. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Je suis un être humain comme vous. Il y a des choses dans notre cœur qui ne plaît pas au Seigneur. Alors ici, nous avons un spectacle époustouflant. Parce que Jésus rentre et Jésus renverse. Les pigeons volent partout. Parce que Dieu leur avait donné un principe pour offrir des sacrifices, mais ils avaient fini de faire de tout cela un business financier. Ils avaient instauré dans le temple des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Des choses que Dieu n'approuvait pas. Et Jésus, quand Jésus vient, si tu lui ouvres ton cœur, Jésus lui demande. Est-ce que tu veux, on va chanter ce chant ce matin? On veut lui obéir? On veut marcher dans ses voies? Il faut faire attention à ce qu'on chante. Ça nous engage. Quand Jésus vient, quand Jésus est là, il se passe des choses merveilleuses. Des miracles et des prodiges. Quand nous laissons le Saint-Esprit agir. Quand ce n'est pas l'homme qui fait. Ici, les principaux sacrificateurs tenaient le peuple dans un esclavage moral et physique. Les gens étaient courbés sous le poids de la maladie et du péché. N'oubliez pas que Jésus est venu pour libérer. Il dit, je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, le Seigneur veut te visiter. J'aime beaucoup ce chant qui dit, on laisse le Seigneur te visiter. Ce n'est pas tout. Entouré, il veut t'entourer. De son amour. Il veut te rafraîchir. Qui de nous ce matin n'a pas besoin de rafraîchissement, de restauration, d'une nouvelle vision dans le ministère, dans la tâche que Dieu t'a confiée? Jésus est dans ce matin. Il y aura toujours des gens qui seront indignés. On trouvera toujours des gens qui sont indignés, des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Parce que l'histoire du temps, là, l'auteur ne nous dit pas quel jour Jésus fait cela. Mais dans le temps, il y avait le sabbat, et aujourd'hui, ça va. Ils ont reproché à Jésus de faire un miracle le jour du sabbat. Ils ont dit au peuple, vous avez toute la semaine pour faire ce qu'on vous devez faire, mais le sabbat, c'est le sabbat. Et Jésus, lui, il vient pour renverser l'ordre des choses. J'aime ça. Parce que quand les hommes établissent des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, cela freine l'Église, cela freine les ministères, cela freine la croissance de l'Église. Et nous avons besoin, vraiment, que Jésus rentre dans le temps.
Alléluia.
Et qu'il fait le ménage. C'est lui qui a fait le ménage pour moi. Dans ton cœur. Alléluia. Alors, nous allons laisser les bâtiments de pierre pour aller en profondeur. Tous ceux qui étaient de l'ancien étaient l'ombre des choses à venir. Parce que comment pouvez-vous imaginer que Dieu, homme, peut habiter dans ce bâtiment? Non, c'est pas Dieu. C'est dans le ciel. C'est le ciel. Le Dieu vous tenir. Et Dieu, par sa sagesse, a voulu habiter dans mon cœur. Et la fête sera le temps du Saint-Esprit.
Amen.
C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela dans le Corinthiens 16. Le temps de Dieu vivant, l'apôtre Paul qui nous Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si nous savons qui nous sommes, 1 Corinthiens 3:16, si nous savons ce que nous sommes et ce que Dieu a fait en nous, nous allons être prudents et ne pas souiller le temps. Dans Matthieu 21, ils avaient souillé le temps. Alors, l'apôtre Paul dit, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes ce matin, Dieu est saint. Ne m'en pas à ta personnalité, je ne m'entends pas ça. Je parle de ton esprit. Et même le corps physique doit marcher dans la sainteté. Même le corps physique, on ne fait pas n'importe quoi avec ce corps. C'est une enveloppe. Et que l'Esprit de Dieu habite dans cet endroit. Et c'est ce que vous êtes. Sommes-nous conscients de cela? Est-ce que je suis conscient de l'œuvre de Dieu achevée, l'œuvre de Christ achevée en toi? D'abord, je vous pose une question, s'il vous plaît. Alors, surtout, doit être glorifié. Le verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Parce que vous avez dit que même, comme si Dieu a une faiblesse, Dieu n'a pas de faiblesse. C'est une façon d'exprimer, de dire les choses. Vous comprenez quand même, la faiblesse de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu n'a pas de faiblesse. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages pour leur propre ruse. Alors, je suis le fou. Alléluia! Amen! Est-ce qu'on peut acclamer cela ce matin pour Dieu, Seigneur? Je suis le fou. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit. Parce que dans ce temple, il y a un combat, il y a la chair. Tant que je suis là, tant que vous êtes là, il y aura toujours un combat entre la chair et l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Mais je dois veiller. Parce que Christ me donne la force pour triompher. Alléluia. Et puis l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 6, 14, cette parole concerne beaucoup de vos situations. Ne vous mettez pas à la fidèle sur un jour étranger. À quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si je suis le temple, je suis la lumière. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. La parole de Dieu habite en moi. Et je marche dans la lumière. Je marche dans la vérité. Et je triomphe. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité, ça va vous approcher, vous allez triompher. Il y a trop de chrétiens qui sont dans des défaites parce qu'ils ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer au plus profond de leur cœur. Voilà le travail. Ils veulent faire comme ils veulent. Et ça ne marche pas. Non. Le verset 2, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et c'est pour ça que nous pouvons nous réunir de commun accord. Parce que nous sommes le temple. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la parole de Dieu. Et nous venons vous adorer le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas tout. Comme l'a dit Dieu, comme lui donne de Salomon, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai dans Dieu et ils seront le peuple. Bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on accepte la parole de Christ dans notre cœur et qu'on se soumet à sa parole. Là, on est né de nouveau. On est enfant de Dieu.
Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux dans le monde et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur que je vous accueillerai. Je serai pour un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Il veut nous accueillir, il nous aime. Il a prié comme tout sa gloire. C'est la vérité, il ne veut pas que tu périsses. Mais il faut que tu reviennes au Seigneur. Alléluia. Alors l'apôtre Paul va un peu plus loin. Il nous dit dans 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, parce que l'homme a un esprit, une âme et un corps. Et nous pouvons pécher avec l'âme, ou pécher aussi avec l'esprit, pour faire pécher notre chair. Cette trois identités-là, il y a un verset qui nous parle de ça, on verra à la fin. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, la nécessité de faire un choix. Avec Dieu, je dois faire un choix. Je ne peux pas être moitié dans l'Église et moitié dans le monde. Non, il faut faire un choix. Si tu sais que tu es le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois faire un choix. Ce choix, c'est de te séparer de ce monde. En fait, quand on dit de ce monde, c'est du péché, ça ne veut pas dire que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous ne véhiculons pas avec l'esprit du monde. Mais nous avons la nécessité de faire un choix pour plaire au Seigneur. L'apôtre nous invite à examiner toutes choses. Quand nous sommes le temple de Dieu, la parole de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, nous avons cette capacité de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Romains le chapitre 12, que vous connaissez très bien, Dieu commence. Ok? L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Est-ce que tu peux réciter cela avec moi? Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Amen. J'ai vu qu'il y a des bouches qui n'a pas parlé. Mais même derrière le masque, on voit. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 21, l'apôtre Paul nous dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, qui n'est pas bon pour toi, enfant de Dieu, et qui n'est pas bon pour l'Église. Alléluia.
Amen.
Nous devons examiner. Dieu nous a donné cette capacité, avec la parole et le Saint-Esprit, d'examiner le faux du vrai. Et l'ennemi est très subtil. Quand il a tenté Jésus, il a utilisé la parole de Dieu pour faire tomber Jésus dans la désobéissance au Père. Mais Jésus connaissait la parole. Et Jésus a déjoué les stratégies de l'ennemi. Il regarde toujours avec la parole. Et ne le sous-estimez pas. Ne lui donnez pas un pouvoir qu'il n'a pas. Mais soyons vigilants. S'il a fait tomber Adam et Ève, un groupe qui ne connaissait pas le mal, qui ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que le péché. Toi et moi, nous savons qu'est-ce que c'est que le péché. La désobéissance à la parole de Dieu. Le mensonge. J'espère que ce matin, nous avons franchi toutes ces barrières. Nous sommes plus dans le mensonge. Parce que si tu mens, la parole dit celui qui ment. Il dit bien, le père de mon sang, c'est lui. Il peut que mentir. Il est incapable de faire le bien. Alors ce matin, avec la grâce de Dieu, examinons toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 21 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu fait ce travail en moi, Dieu fait ce travail dans l'Église, dans la mesure où l'Église est attachée à sa parole. Le Saint-Esprit ne peut rien faire si lui, il n'a pas un support. Le support, c'est la parole. Quand Dieu a commencé à créer le monde, il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là, il se mouvait. Mais quand Dieu m'a parlé, il y a une parole de Saint-Esprit en relation. Le Saint-Esprit a compris. Le Saint-Esprit agit dans ta vie et dans ma vie s'il y a la parole de Dieu. Alléluia! Je voudrais qu'on dise ce matin comme le salmiste, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole qui va nous garder avec le Saint-Esprit. Les deux sont unis. Il nous est dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais je peux expliquer ce verset. Faut pas dire, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as donné ma vie, pourquoi je te dis que non? La parole ne dit pas ça. La parole nous dit, travaillez à votre salut. Et il dit ça comment? Le verset m'échappe. Dites-moi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On va travailler à notre salut. Travailler à notre sanctification. Parce que Jésus, l'histoire de Jésus que tout le monde a voulu élever ces temps-ci, mais c'était plutôt pour des choses pour eux. Mais Jésus vient chercher une église qui s'est sanctifiée. Il nous est dit dans l'Apocalypse que celui qui se sanctifie, je sanctifie mon corps. Jour après jour, je me sanctifie. J'enlève. J'enlève dans ma vie, j'enlève dans mon cœur tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Alléluia.
Mais...
le Seigneur nous aide à purifier les trois dimensions que nous sommes. L'esprit, l'âme et le corps, parce que nous pouvons pécher dans ces trois domaines. Et nous avons besoin vraiment que le Seigneur puisse nous toucher. J'aime beaucoup ce chant qui dit, il m'a touché. Et ce matin, je prie pour que Jésus puisse me toucher. Jésus m'a touché. Alléluia. Est-ce que Dieu veut ce matin que Jésus te touche? Cela dépend de toi. Pas de lui. Il a dit, j'ai tout fait. Il a dit que tout est accompli. Et Jésus dit maintenant, si quelqu'un veut, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis? Quel est ton choix? Il a bien dit ça, le Seigneur met les choses devant nous. Il met les choses devant nous. Il nous dit de choisir. C'est à nous de choisir. Alléluia. Alors, je finis avec ce verset que j'ai lu. La toute opportunité. Dans le monde entier, c'est un. Ayant donc de telles promesses, bien aidés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous garde. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et que cette parole tombe dans la bonne terre.
Amen.
Qu'elle porte du fruit.
Amen.
Dans votre vie.
Amen.
Et que nous soyons l'Église. Puisse être ce que Dieu veut. La lumière ne sert.
Alléluia.
C'est bonne de Christ.
Alléluia.
Je vais vous prier. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur.
Alléluia.
Ne te retiens pas. Ne pose pas de conditions. Mais livre-toi tout entier. Livre-toi tout entier à Jésus. Dieu ne pourra jamais servir quelqu'un qui ne se livre pas totalement. C'est impossible. Mais ce n'est pas possible. Le Seigneur veut se servir de toi. Mais il faut que tu te livres totalement. Sans retenir. Alléluia.
Amen.
Je me livre totalement. Que tu vas convaincre ce monde. Et c'est par la parole de Dieu, le
Saint-Esprit.
Quand je travaillais, je disais au Saint-Esprit, à Paris, dans le discours, j'ai dit Saint-Esprit, comment nous allons faire pour toucher tous ces gens qui ont tous des pensées différentes, qui ont des goûts différents, qui ont des vues différentes. C'est le Saint-Esprit. Libre.
Tu veux m'utiliser, je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, me voici
devant toi.